jours, je vais vous parler pendant une quinzaine de minutes de la gestion raisonnée du parasitisme bovin au pâturage et en particulier l'utilisation des examens complémentaires dans ce concept-là. Il faut savoir que notre façon de travailler, vétérinaire, éleveur, a beaucoup évolué dans les 15 dernières années avec l'apparition de ces examens complémentaires, mais aussi par l'évolution de nos connaissances sur le parasitisme bovin. Et actuellement, on essaye de travailler aux confins de trois types de raisonnement, trois types de concepts, qui est la santé humaine, le concept on earth, en sachant que la santé animale ou végétale, bien entendu, a un impact direct sur la santé des gens, mais aussi, bien entendu, sur l'impact du parasitisme sur le bien-être animal, sur leur santé, sur leur croissance, sur l'impact sur d'autres maladies. Et puis, l'impact de l'utilisation des antiparasitaires sur leur propre vie, à ces médicaments, parce que plus vous les utilisez, plus vous allez induire de résistance, plus vous allez diminuer leur capacité à être efficace, mais aussi parce qu'ils ont un impact sur l'environnement, une certaine écotoxicité qui va avoir une influence sur la faune qui se développe dans les bouses, dans le milieu extérieur, avec une certaine raréfaction d'espèces. Et beaucoup de gens actuellement sont très concernés par ces choses-là. Et donc, ça nous induit, nous, vétérinaires prescripteurs ou éleveurs utilisateurs d'antiparasitaires, à être extrêmement fins dans la gestion du parasitisme et d'avoir une démarche qualité très, très, très proche de l'exactitude. Alors, il y a quatre grandes parasitoses qu'on va essayer de gérer. Il y en a d'autres, bien entendu, mais il y en a quatre plus importantes qu'on va gérer de façon commune en France. Estrongles gastro-intestinaux, qui sont des parasites du digestif du bovin, qui sont essentiellement présents en première année de pâture, mais un petit peu aussi après. L'estrongle respiratoire, avec essentiellement la dictyocolose, la bronchite vermineuse, autrement appelée, qui a une influence sur la pathologie respiratoire d'été essentiellement, et puis deux pathologies un petit peu particulières qui nécessitent des zones humides, des hôtes intermédiaires, que sont la grande douve du foie ou la fasciolose, et la paramphystomose. Alors, chacune de ces parasitoses a des examens complémentaires assez précis dont on va parler, mais on va d'abord se poser la question pourquoi utiliser des examens complémentaires. D'abord parce que ce sont des maladies qui donnent des symptômes extrêmement ambigus. L'estrongylose gastro-intestinale, par exemple, donne des retards de croissance, donne des diarrhées, et il y a des tas de maladies qui peuvent donner ça. La dictyocolose donne de la toux, des pneumonies, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent donner ça. Donc, pour être capable de faire un diagnostic précis, il faut des examens complémentaires, autrement vous ne pouvez pas savoir en face de quoi vous êtes. Et ensuite, la plupart du temps, ces maladies-là, ces parasitoses-là, induisent ce qu'on appelle un effet subclinique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de symptômes, mais vous avez un retard de croissance, vous avez un impact sur le bien-être animal, et ça, seuls les examens complémentaires vous permettent de l'objectiver. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, je vous en parlais en introduction, les examens complémentaires vont vous permettre d'affiner votre démarche. Dans un premier temps, quand vous travaillez dans un élevage, la première chose à faire est d'identifier les parasites qui sont présents. Savoir de façon assez exhaustive lesquels sont là et lesquels peuvent affecter chaque génération de bovins ou l'ensemble des bovins, par exemple. Une fois que vous savez ça, et ça aussi les examens complémentaires vont vous permettre de le savoir, vous allez devoir quantifier leur impact. Est-ce qu'ils sont présents mais pas pathogènes ou est-ce qu'ils sont présents et dangereux? Ça, c'est le deuxième point. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez mettre en place des mesures de gestion. Ces mesures de gestion vont être médicales, avec des médicaments antiparasitaires, ou environnementales, par la gestion du parasitisme, du pâturage, pardon, par la gestion de zones humides pour la grande douve ou les paramphysomes, etc. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez mis en place toutes ces mesures de contrôle, de gestion, eh ben, il va falloir, dans une démarche qualité, il va falloir vous assurer que ce que vous avez fait est bien, est efficace, que ce n'est pas trop fort, que ce n'est pas assez fort, et que vous êtes exactement dans le créneau que vous avez voulu avoir en termes d'efficacité. Et donc, on utilise de façon assez obligatoire les examens complémentaires. Alors, les examens complémentaires utilisables sont assez nombreux, même si on aimerait en avoir plus dans certains cas. Dans la pratique courante, ils sont suffisamment nombreux pour qu'on soit efficace et qu'on soit relativement performant et pertinent. Pour les strongyloses gastro-intestinales, on peut utiliser la coproscopie, on peut utiliser la dosage du pepsinogène sérique, on peut utiliser le RDO sertagial, c'est un test ELISA qui permet d'avoir une idée du contact avec Ostertagia, qui est un parasite très commun, un parasite digestif très commun. Pour la dictyocolose, on verra que c'est simplement un examen au cabinet ou au laboratoire, mais qui permet d'objectiver la présence. Et puis, pour la grande douve, on a un test sur le lait, sur le sang. On peut le rechercher à l'abattoir, en coproscopie. tout comme les parenphystomes. Hein. Il n'y a pas de test sérologique pour parenphystomes. Et puis, j'ai mis un petit mot sur une parasitose qui n'est pas une parasitose de pâturage. Ce sont les coccidioses qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a des coproscopies extrêmement importantes qui sont spécifiques. Alors, on va détailler ça un petit peu. Hein. Comment on peut les utiliser et comment on peut être relativement performant sur cette approche. Alors, pour les strongyloses gastro-intestinales, donc ces parasites qui sont les parasites du tube digestif, qui induisent, quand on a des épisodes aigus de la diarrhée, c'est pas très difficile à diagnostiquer quand on est là, mais qui induisent surtout des pertes de croissance. Or, quand on sait actuellement les exigences en élevage laitier notamment, mais aussi maintenant de plus en plus en élevage allaitant, il est important d'avoir des croissances maximales. Alors, pour les strongyloses gastro-intestinales, on peut détailler la croissance de l'animal. En première année de pâture, on connaît assez bien le déroulement de l'infestation, les conditions de l'infestation. Et donc, on peut, quand on a de bonnes connaissances épidémiologiques, on peut faire une estimation a priori de l'impact de ces parasitoses-là. Par contre, on est assez peu capable de connaître en tout cas l'impact de nos traitements ou de connaître ce qui se passe en fin de saison de pâturage. Et donc, pour essayer d'avoir une bonne idée de ces choses-là, on va utiliser soit des coproscopies au milieu de saison de pâturage qui nous donnent une idée de l'intensité du recyclage parasitaire, de l'intensité de la reproduction de ces parasites et donc de leur impact sur les animaux. Et puis en fin de saison de pâturage, on va utiliser le dosage du pepsinogène sérique. C'est un dosage extrêmement simple à faire par prise de sang, 5 prises de sang par lot. Et ce dosage permet d'avoir une idée assez précise de la charge parasitaire des animaux en fin de saison de pâturage. Ça donne beaucoup de renseignements. Ça donne des renseignements sur la nécessité ou non de ne pas les traiter, de la qualité de la gestion antiparasitaire de la saison qui vient de se passer, et ensuite de leur compétence immunitaire pour la saison après. Et l'idéal étant de trouver une espèce de congruence entre une croissance importante, une faible charge parasitaire inductrice d'immunité de façon à ne plus traiter ces animaux dans les saisons à venir. Alors c'est probablement la génération pour laquelle on a le plus de moyens pour essayer d'estimer la charge parasitaire et l'impact du parasitisme. Dès que les animaux sont immunisés, soit en deuxième année de pâture, soit chez les vaches laitières, ça devient beaucoup plus compliqué. Les coproscopies sont souvent négatives parce que les animaux sont immunisés et ne pondent pas, les vers ne pondent pas. Le pepsinogène qui est un reflet de la réaction de l'animal aux parasites est souvent élevé dès qu'il voit des parasites parce qu'il y a des réactions inflammatoires qui vont changer l'interprétation de ce test. Le seul nouveau test intéressant qu'on ait, c'est sur les vaches laitières. C'est un test qu'on fait sur le lait, qui est donc, je vous en parlais tout à l'heure, le RDO Certagia. RDO, c'est pour une réduction de la densité optique, hein, pour le traduire un petit peu. Et ce test donne une idée assez intéressante, pas précise, mais intéressante, du contact des animaux avec les parasites digestifs. Un petit peu toutes les espèces, il s'appelle Osertagia, mais on sait qu'il touche aussi toutes les espèces. Et donc, ça va nous permettre de donner des conseils en termes de gestion du parasitisme. Alors, il faut bien avoir une idée du fait que ce test donne une idée du contact, simplement, et de la longueur du contact, de la fréquence du contact, et non de l'intensité de la charge parasitaire. Donc, c'est pour ça que l'interprétation est parfois un petit peu délicate et qu'on ne peut pas l'utiliser de façon assez brute. En ce qui concerne la dictyocolose, c'est un parasite d'été essentiellement, parasite pulmonaire qui fait tousser les animaux. Je vous parlais tout à l'heure d'ambiguïté diagnostique. Ceci dit, quand on a un petit peu l'habitude, si la toux se ressemble en quasiment toutes les pathologies respiratoires des bovins, l'auscultation pulmonaire, elle, est assez caractéristique, avec une auscultation pulmonaire qui ressemble à de l'asthme, en fait, dans les régions postérieures du poumon. De toute façon, même en ayant l'habitude, on va utiliser d'autres examens complémentaires pour objectiver ce test, et notamment le McKenna. Et vous voyez sur la diapositive qui est projetée, notamment les petites larves de dictyocolose qui bougent hein, sur le champ du microscope. Le McKenna est un test qui est montré sur la diapositive, sur l'image du dessus, qui est un test extrêmement simple à mettre en place. Vous voyez, il faut simplement un verre à pied de 500 ml, de l'eau, un petit bâtonnet, des compresses. Ça ne coûte quasiment rien à mettre en place. On met à profit La tendance des larves à bouger, ce qu'on retrouve dans les bouts, ce sont des larves mobiles qui vont tomber au fond du récipient et on les recueille et on les lit. Ça permet d'avoir un diagnostic précis. Et puis, une fois qu'on va avoir cet élément, qu'on sait qu'on est en phase de dictyocolose, la troisième phase du diagnostic est d'un diagnostic épidémiologique, savoir pourquoi la maladie est là, parce qu'on sait que la maladie, elle se développe essentiellement avec la présence de porteurs latents, des vaches, qui portent en permanence les parasites, et il est important de le savoir, parce que ça va permettre de prédire d'autres épisodes les années d'après, d'anticiper et de gérer. La troisième parasitose qui nous intéresse, qui est extrêmement importante, avec essentiellement, je vous parlais tout à l'heure, d'impact subclinique. C'est vraiment la grande ouve du foie, la fasciolose, qui est le roi pour ça. C'est une maladie qu'on ne voit quasiment jamais que s'exprimer cliniquement. On le voyait il y a très longtemps, mais plus maintenant. Par contre, c'est un impact très fort sur l'immunité, sur la croissance, sur la qualité du colostrum, sur la longévité des animaux avec une fibrose hépatique, etc. Et extrêmement important de savoir si elle est présente en exploitation. Le diagnostic coproscopique est assez difficile à faire. Autant comme pour les strongles, on voit très très facilement les œufs. Fasciola est un parasite qui pond extrêmement peu, de façon assez aléatoire, avec des œufs qu'on retrouve dans la bile. Et comme la vésicule biliaire se contracte de façon non régulière, on ne retrouve pas de façon étagée dans les fesses, dans les bouses, les œufs de Fasciola. Donc c'est presque un bonheur de pouvoir les voir en coproscopie. Alors le fait de les voir donne un diagnostic de certitude, mais par contre on les voit assez rarement. Ce qu'on utilise le plus souvent, ce sont des outils sérologiques. D'abord parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à mettre en place. On fait des prélèvements soit de mélange de sang, soit de lait. Et on a un test qui devient extrêmement modique dans son utilisation en termes de coût, parce que tout est automatisé. Alors, en France, il s'utilise un test qui s'appelle le test IDEX ou Pourquier, peu importe. Et ce test est automatisé, est utilisé sur le lait ou sur des mélanges de sang. Le problème, c'est que ce test a une sensibilité faible, c'est-à-dire que vous n'allez détecter que des troupeaux qui sont assez fortement infestés par la grande douve, au moins 40% d'animaux infestés. Et donc, ce test, quand il est positif, vous êtes sûr d'avoir de la grande douve. Quand il est négatif, vous pouvez être en dessous de ce seuil de 40%. Il va donc falloir utiliser d'autres tests. En France, le seul test disponible actuellement et le test INRA qui est utilisé à l'école vétérinaire de Nantes, et lui qui est très sensible et va chercher des prévalences en dessous de 20% en utilisant des mélanges de 600 de primipares, 600 de multipares par exemple. Il y a deux autres tests qui sont développés, un test espagnol, MM3, qui est assez, pour l'instant, dans les conditions françaises, assez décevant en termes d'efficacité. Et puis un test qui vient des Pays de l'Est, qui est un test Fanova, qui n'est pas encore investigué, mais qui pourrait être assez intéressant, qui ressemble un petit peu au kit INRA. Donc, importance de mettre en place ce diagnostic et d'aller investiguer les mélanges de lait négatifs en test Pourquier pour être sûr de ne pas en avoir. Et puis, l'intérêt de tests individuels aussi, c'est que ça donne aussi une première idée de la prévalence. Si vous avez beaucoup de sérum positif et assez fortement positif, pour être quasiment sûr que vous avez beaucoup, beaucoup de grandes douves dans votre exploitation, qu'il va y avoir pas mal de travail à mettre en place. La dernière étape de votre diagnostic en termes de fasciolose, une fois que vous savez que vous en avez, vous avez déjà une petite estimation de la prévalence, de l'importance géographique du parasite dans votre exploitation, il va falloir aller chercher où les animaux s'infestent. Je vous disais tout à l'heure que la grande douve et les paramphistomes sont des parasites à haute intermédiaire. Et il faut des zones humides pour qu'ils puissent s'infester. Et donc, la dernière phase de l'investigation, du diagnostic, ça va être d'aller chercher les zones humides pour pouvoir savoir où les animaux s'infestent, est-ce qu'ils s'infestent beaucoup ou pas. Et donc, ça va conditionner directement la gestion médicale de ce parasitisme. Pour les paramphistomes, c'est quasiment la même chose, c'est la même démarche, si ce n'est que nous n'avons pour l'instant qu'un seul test positif, utilisable en pratique courante, qui est le test coproscopique. On n'a pas d'outil sérologique pour la paramphistomose. On a aussi bien sûr des possibilités de remontée d'abattoir. Et comme pour la grande douve, l'impact clinique est plutôt un impact subclinique. Dans les infestations aiguës, on a parfois de la diarrhée, mais souvent on a des problèmes de retard de croissance et c'est rare que ça s'exprime cliniquement. Donc, on utilise des coproscopies. Vous voyez sur la diapositive, les œufs sont extrêmement caractéristiques. Ce sont des œufs assez gros, brillants, très faciles à reconnaître dès qu'on a l'habitude. Et en plus, comme il y a beaucoup de paramphistomes et qui pondent beaucoup, il y en a souvent beaucoup, beaucoup sur les lames. Donc, c'est assez facile de diagnostiquer. Donc, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que les examens complémentaires sont complètement indispensables à mettre en place dans une gestion moderne et raisonnée du parasitisme bovin. Ça nous permet d'aller vers ce ce qu'on pourrait appeler une démarche qualité, démarches sont utilisées dans l'industrie, etc., mais qui nous est de plus en plus demandée par la société civile, par le consommateur, par l'ensemble des gens qui sont partie prenante dans la gestion du parasitisme et aussi ceux qui produisent des antiparasitaires. Il faut bien se dire une chose, c'est que les années 60 sont parties, c'est terminé. Les principes qu'on utilisait depuis longtemps émanaient de ces années 60, au moment où on a commencé à travailler sur le parasitisme. Les médicaments ont changé, nos connaissances ont changé. Et maintenant, il est extrêmement important d'utiliser les examens complémentaires. Sur cette diapo, vous voyez à peu près, c'est une diapositive qui se déroule au long de l'année. Et vous voyez que les examens complémentaires sont utilisables tout au long de l'année, avec des périodes assez précises, en fonction du parasite, en fonction de son épidémiologie. Mais utiliser ces examens complémentaires, c'est pour le vétérinaire et l'éleveur avoir déjà une première idée de ce qui se passe dans votre élevage, en dehors de toute pathologie. Et donc, ça vous permet de commencer à partir de ces examens, avoir une très bonne idée de ce qui se passe chez vous et de voir si vous devez améliorer ou pas votre gestion du parasitisme. Je vous remercie.